يا خيال الحكامة
أماني
أمان
باسان
فريد
أمبيلي
هاكس
خوتسو
واني
أوهانجي
بوتني
وامسنغو
فريدة
السلام
Peace sounds
Alternatives from the Global South
بابا لاغم أولينو لاغم أوبابي دغن ولا جامي بولي.
What is peace actually?
Is a peace agreement enough to create justice for all?
How do activists manage to stay hopeful even though they experience violence every day?
Can people like you and me really make a difference?
What do people do with their memories after the war?
Do we feel the same empathy for all affected by wars?
For this podcast, we looked for people who are trying to make the world a better place, usually under very difficult conditions.
They provide emergency aid in solidarity, resist injustice and oppression, and work for non-violent change.
Listen to them.
Listen to them.
Hört zu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts.
Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Peace Sounds. Dans ce podcast, nous nous entretenons avec des personnes vivant dans des zones de conflit qui s'y engagent pour un changement durable et une paix équitable. Aujourd'hui encore, Hannah et Marie sont vos guidées tout au long de l'épisode.
Seit dem Jahr 2000 gibt es die UN-Resolution 1325.
La résolution 1325 de l'ONU, Femmes, Paix et Sécurité, existe depuis l'an 2000. Outre la protection particulière des femmes et des filles, elle prévoit surtout que les femmes soient davantage impliquées dans les processus et institutions politiques de gestion et de prévention des conflits. Ce n'est pas un hasard si elle a été proposée par Netumbo Nandi-Ndaitwa, alors ministre des Femmes de Namibie, puis adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce, à l'unanimité.
So einig, wie sich damals alle waren, so schwierig gestaltet sich seitdem die Umsetzung. Eine einzige Frau.
Malgré le fait que tout le monde était d'accord à l'époque, sa mise en œuvre s'avère difficile depuis. À ce jour, une seule femme a signé un grand accord de paix. Il s'agit de Myriam Coronel Ferrer. En 2014, elle a mené les négociations de paix pour le gouvernement philippin avec le groupe rebelle local, le Front islamique de libération des Moros, MILF. Celles-ci ont abouti à un traité de paix qui est toujours en vigueur.
Frauen am Verhandlungstisch sind immer noch eine große Seltenheit.
Mais la présence de femmes à la table de négociation est encore très rare. Nabou Malessissé du Sénégal en sait quelque chose. Depuis plus de 20 ans, elle se bat au sein du Comité de solidarité des femmes pour la paix en Casamance pour que les organisations de femmes soient associées aux négociations de paix entre l'État sénégalais et l'organisation rebelle MFDC. Anna, tu as parlé avec Nabou et tu t'es aussi un peu penchée sur le conflit sénégalais. Un conflit qui dure depuis plus de 40 ans et qui est le plus long conflit d'Afrique. De quoi s'agit-il?
C'est difficile à dire aujourd'hui. À l'origine, il s'agissait d'une guerre de sécession, c'est-à-dire que la Casamance voulait devenir indépendante du Sénégal. Géographiquement, le Sénégal est une entité un peu particulière qui, comme tous les autres États africains, est née du découpage territorial colonial. Au milieu se trouve une bande longue et étroite, c'est la Gambie. Au sud de cette bande se trouve la Casamance. Cela signifie que si l'on veut se rendre de la Casamance à la capitale Dakar, il faut traverser la Gambie, ce qui n'est pas toujours possible, ou bien contourner ce pays de manière très compliquée. En 2014, j'ai accompagné une caravane pour la paix du mouvement des femmes à Dakar. À l'époque, nous avons été bloqués à la frontière et une femme s'est exclamée. Sommes-nous sénégalaises ou ne le sommes-nous pas? Et je crois que cela exprime bien la frustration que beaucoup de gens peuvent ressentir en Casamance.
Il s'agissait donc uniquement d'un manque de moyens de transport?
On
ne peut pas dire ça comme ça. La Casamance est culturellement et géographiquement très différente du reste du Sénégal. Et lorsque le Sénégal est devenu indépendant, le premier président Léopold Senghor avait déjà évoqué une possible indépendance de la région. Cependant, aucune mesure n'a jamais été prise dans ce sens. Au contraire, les décisions politiques étaient prises de manière très centralisée dans la capitale selon le modèle français. La Casamance était très fertile, mais aussi très pauvre et les gens avaient le sentiment de ne pas profiter de leur richesse. Cette situation est devenue de plus en plus tendue, mais Nabou en parlera elle-même dans l'interview.
Et où en est-on aujourd'hui?
Der Konflikt wird als Krieg mittlerer Intensität bezeichnet. Das heißt, es gibt immer wieder
Le conflit est qualifié de guerre de moyenne intensité, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des opérations militaires ou des attaques du MFDC, qui signifie Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Mais ce n'est pas un état de guerre permanent. La guerre est néanmoins présente en permanence, par exemple parce que de grandes parties du pays sont minées. Parmi les victimes, on compte un grand nombre de femmes car elles empruntent les chemins minés pour se rendre aux champs, aux jardins ou aux marchés locaux. La plupart des gens semblent fatigués de la guerre, mais celle-ci a tout de même développé sa propre dynamique, renforcée par divers acteurs qui profitent de cette guerre. Un accord de paix a été signé en 2022, mais cela s'est déjà produit plusieurs fois et aucune mesure concrète n'y a été conclue.
Keine konkreten Vereinbarungen getroffen.
Nabou Malé Cissé a dirigé jusqu'à récemment l'organisation Usoforal. Quelle est cette organisation?
Usoforal bedeutet auf Djola sehr schön, wir geben uns die Hand.
Usoforal signifie « nous nous donnons la main ». Les femmes membres se nomment « Comité de solidarité des femmes pour la paix en Casamance ». C'est une sorte d'association fêtière de différentes initiatives de femmes. Depuis 1999, elles s'engagent à s'asseoir à la table de négociation en tant que représentantes de la société civile féminine, ainsi qu'à soutenir les femmes dans les villages même où elles vivent. J'ai aussi demandé à Nabou ce qu'elle entendait par femme, c'est-à-dire qui elle désignait exactement. Elle m'a expliqué que les personnes trans au Sénégal sont tellement marginalisées et criminalisées qu'elles sont absolument invisibles. Cela signifie que le mouvement des femmes en Casamance se réfère aux femmes cisgenres.
Faktisch auf cisfrauen und deswegen sprechen wir im Interview auch von Frauen ohne Sternchen.
Avant de commencer, encore une note de contenu. L'interview fait explicitement référence à des crimes violents à quelques endroits, même s'ils ne sont pas décrits en détail.
Et c'est
parti pour l'entretien avec la militante pour la paix Nabou Malé Cissé du Sénégal.
Herzlich willkommen, Nabou Cissé. Ich freue mich, dass du heute hier bist, mit uns in diesem Podcast.
Bienvenue, Nabou Cissé, dans notre podcast Peace Sounds. Nous allons parler de votre engagement personnel et aussi de votre engagement dans le mouvement de paix à Casamance et de votre histoire personnelle. Mais pour commencer, j'aimerais bien parler d'une chose très actuelle. Le gouvernement basque vous a choisi pour le prix Ignacio El Asuria de la coopération au développement 2023 pour votre engagement en faveur de la paix, des droits de l'homme et de la femme en Casamance. Et je voulais avoir votre avis sur le fait, serait-il temps d'obtenir une reconnaissance similaire de la part du gouvernement sénégalais?
Merci pour la question. J'en parlais avec un journaliste avec qui je discutais et il trouvait aussi que il aurait été temps vraiment que le gouvernement du Sénégal reconnaisse les efforts de la société civile de manière globale, des femmes en particulier et de moi aussi en tant qu'une des précurseurs du mouvement des femmes pour la paix, qu'il est temps vraiment que le gouvernement du Sénégal le reconnaisse. Mais bon... peut-être qu'il ne sera jamais trop tard pour bien faire. Peut-être qu'un de ces jours, le gouvernement reconnaîtra que les femmes ont fortement contribué à l'apaisement du climat en Casamance.
Vous avez dit que vous étiez une des premières, une des précurseurs du mouvement de paix à Casamance. Et vous n'êtes pas originaire de Casamance. Vous avez décidé en 1978 d'y être mutée comme enseignante. Pouvez-vous nous dire pourquoi?
Je suis née dans le nord du Sénégal, mais je connaissais un peu la Casamance depuis très longtemps. Et quand j'ai fini mes études, au moment de la formation pour être professeur, donc en sortant, j'ai été la major de ma promotion. Et en tant que major de la promotion, on peut effectivement choisir l'endroit où on est affecté. Et moi, j'ai choisi personnellement de venir vivre en Casamance, d'être citoyen sénégalais donc en Casamance, et donc de consacrer le reste de ma vie à cette région. C'est librement. Donc, il y a des gens qui sont nés en Casamance. Ils sont de la Casamance parce qu'ils y sont nés. Moi, c'est par choix personnel que je suis devenu donc, de la Casamance.
À l'époque, vous étiez déjà engagée politiquement dans un syndicat et en 1979, il y a eu une grève des enseignantes et enseignants et à laquelle se sont joints un grand nombre d'élèves. Et de quoi s'agissait ce mouvement à cette époque?
Bon,
il faut dire que j'étais déjà engagée de façon très forte déjà dans le mouvement étudiant au niveau de l'université de Dakar. En tout cas, je fais partie des membres fondateurs de ce qu'on appelait AGES dans le temps, et qui était donc l'Assemblée générale donc, des étudiants du Sénégal donc, au niveau de l'université de Dakar. Et quand j'ai été affecté ici en 78, donc, je me suis affilié à un des syndicats donc, de gauche, ça allait de soi, donc à un syndicat de gauche qui était un peu un syndicat aussi d'opposition au pouvoir, je sais, enseignante. Et en fin 79, il y a eu des revendications des élèves pour de meilleures conditions de travail, mais aussi pour le départ d'un proviseur qu'il jugeait discriminant par rapport à ses attitudes. Et les élèves ne voulaient plus véritablement que ce proviseur reste le proviseur du lycée Guignabo.
On s'est rencontrés il y a quelques années déjà et tu nous as raconté à l'époque que cette grève, c'était un peu plus que simplement une grève et que ça a mené à des situations très dangereuses aussi pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
En effet, quand il y a eu la grève, les autorités politiques de la région ont estimé que les dirigeants du syndicat de gauche là, donc, avaient certainement manipulé les élèves pour qu'ils ils se soulèvent à ce niveau-là, parce que c'était vraiment un soulèvement assez violent. Mon copain d'alors, qui va devenir donc plus tard mon mari, était le secrétaire général du syndicat. Et donc nous avons été appréhendés après un dîner par des hommes, des nervis armés et encagoulés. Donc c'était la nuit, ils nous ont kidnappés avec deux de nos amis qui avaient juste le tort d'être avec nous. Ils nous ont amenés en brousse et pendant 4 heures, ils nous ont bien bastonnés. Et mon mari appelle ça 4 heures de débat à sens unique. Ils nous ont bien bastonnés dans la brousse en nous accusant d'être les instigateurs de cette grève, de pousser les enfants à aller en grève, etc. Et donc, on a été bien bastonnés.
Ich habe auch deswegen nochmal danach gefragt, weil nach so einem Erlebnis.
Après une telle expérience de violence comme tu l'as décrite, on pourrait penser que ça pourrait mener certaines personnes à dire « j'abandonne l'activisme, ce n'est pas pour moi, c'est trop dangereux ». Mais pour vous, c'était tout à fait le contraire. Ça vous a poussé à continuer, à aller plus loin. Quelle est la chose qui vous fait tenir, qui vous motive pour continuer cet activisme?
Merci, ce sont en fait mes fortes convictions, comme quoi rien ne sera donné aux femmes qu'il faut se battre véritablement avec toutes les armes qu'on peut avoir. Je me rappelle que beaucoup plus petite, parce que j'étais dans une grande famille et il y avait beaucoup de garçons. Il y avait mes frères, mes cousins, et on n'était que peut-être deux filles avec peut-être 6, 7, 8 cousins et frères qui habitaient dans la même maison. Mais chacun voulait que nous, on fasse le linge. Et moi, je disais toujours à ses frères et cousins que vous êtes beaucoup plus grands, vous êtes beaucoup plus forts, vous avez donc beaucoup plus de force que moi pour soulever vos gens. Et les gens là, pour les laver, c'est vraiment c'est lourd pour moi. Moi, j'étais toute petite, j'étais menue. Et bon, mais on me disait, oui, c'est toi la fille. Je dis, oui, je suis la fille, je suis d'accord, mais je ne peux pas. Et c'était très difficile. Bon, on me battait aussi des fois parce que je refusais de faire certaines choses. Bon, mais j'étais convaincu que c'était mon droit. Et donc, j'ai continué. Je pense aussi ici, j'ai continué parce que pour moi, c'était mon droit de continuer à me battre, à avoir mes propres convictions. Mais c'est aussi parce que quand les élèves ont soutenu véritablement notre action, enfin ce qui nous était arrivé, ils ont été solidaires avec nous, les élèves, ils ont accentué leur manifestation et il y a eu un élève qui a été tué. Et les femmes de la région, de la ville, sont sorties avec des calebasses sur la tête parce qu'une femme a été agressée. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas quitter, malgré les injonctions de ma famille.
Im Dezember 1982 gab es eine große Demonstration.
En décembre 1982, le mécontentement de la population s'est exprimé une nouvelle fois et pour la première fois sur le plan politique par la revendication de l'indépendance de la Casamance. Et il y a eu une première marche à Ziguinchoa. Comment en avez-vous pris connaissance et comment vous avez vécu cette marche à cette époque-là?
Il y a eu une première marche qui semblait être un peu une marche pacifique, même si les hommes, ils avaient des arcs, des flèches, ils avaient les anciens fusils, etc., à poudre et autres. Même s'ils avaient ça, les hommes, les femmes, elles avaient des calebasses avec de l'eau et elles étaient devant les hommes et elles avançaient. Donc ça, c'est la première marche. Maintenant, cette première marche voulait se diriger vers la gouvernance et elle avait été effectivement, réprimée dans le sang. Il y a eu donc des tirs et autres et il y a eu effectivement des gens arrêtés, etc. Maintenant, c'est en 83 plutôt, en décembre 83, quand il y a eu la deuxième marche commémorative, que véritablement, il y a eu des combats très durs. Mais la première marche, bon, les gens ont juste entendu des coups de feu. Bon, personnellement, je n'étais pas au courant de ce qui s'était tramé. C'est après cela que des explications quand même ont été données par certains qui étaient au courant pour montrer que la Casamance veut son indépendance. Donc c'est comme ça que nous, on a appris la chose. Maintenant, donc, les gens ont été expliqués qu'il y a eu auparavant des rencontres dans les villages, rencontres pendant lesquelles les gens ont explicité pourquoi ils se soulevaient et pourquoi on voulait l'indépendance. Donc, en fait, cela s'est fait, vous savez, au courant des années 70, à partir de 72, il y a eu véritablement une grande sécheresse au Sénégal. Même la Casamance a été touchée par cette grande sécheresse et il y a eu des populations aussi qui sont venues du reste du Sénégal pour venir s'installer au niveau de la Casamance. Donc la Casamance est touchée par cette grande sécheresse aussi, mais moins que le reste du Sénégal. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale, qu'on a appelé un peu le dictat de la Banque mondiale, avec ensuite la dévaluation du franc CFA. Et tout cela a joué sur le bien-être des populations a joué sur l'augmentation de la pauvreté donc, des ménages. Et donc, c'était vraiment un contexte très difficile. La nourriture traditionnelle, le riz, il n'y en avait plus assez dans les greniers. La forêt, il y a de nouveaux venus qui veulent aussi exploiter la forêt. Et donc, il y avait une situation véritablement de mécontentement de la population de la Casamance.
Est-ce que vous diriez que le mouvement d'indépendance, c'était aussi une critique de cette orientation néolibérale du gouvernement sénégalais et que vous vouliez aller dans une autre direction et vous distancer de cette orientation néolibérale?
Il m'est très difficile de dire ce qui se sont soulevés, on fait cette analyse de la politique et néolibérale de l'État sénégalais et c'est en réalité pour lutter. Non, je ne pense pas que je puisse aller jusque-là. Mais ce que je peux dire, c'est que les effets justement de cette politique néolibérale du gouvernement sénégalais a effectivement donc, eu des conséquences. Cela a entraîné la pauvreté, cela a entraîné un mal-vivre, cela a entraîné aussi une certaine prise de conscience entre ce qui se fait dans les régions, dans les zones périphériques, et ce qui se fait dans la capitale Dakar, et dans ce que les Français dans le temps appelaient le Sénégal utile. Ça, on peut le dire.
Du hast eben schon gesprochen von diesem zweiten Marsch 1983 und ich glaube, das war
tu nous as déjà parlé de cette deuxième marche en 1983 et tu nous as aussi parlé de la politique de plus en plus répressive de l'État sénégalais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette phase de répression et qu'est-ce que tu en penses?
Cela a été des moments très difficiles pour tout le monde parce que c'était marqué aussi par l'interdiction de réunion, les interdictions de rassemblement, donc toutes les autres activités annexes, par exemple, que nous nous faisions avec ACAPES se sont trouvées suspendues. Et ensuite, c'était aussi pour nous, militants un peu de la gauche, des moments difficiles parce que sur simple dénonciation, comme quoi vous appartenez au mouvement, vous pouviez être arrêté. Donc ça a été des moments très difficiles pour tous ceux qui luttent pour des droits accrus. Et nous l'avons vraiment vécu avec beaucoup de peur hein, dans toute la région. C'était la peur qui était le dénominateur commun et aussi le manque de confiance les uns vers les autres. Et il y a une dame qui disait qu'en ce moment-là, la main gauche n'avait plus confiance en la main droite. Tellement, donc, il y a eu vraiment des arrestations, des menaces sur les uns et sur les autres. Et beaucoup de personnes se sont cachées. Et c'est ainsi que le maquis est né à la suite justement de cette répression.
Frauen waren von Anfang an auch besonders betroffen von dem Konflikt.
Les femmes étaient toutes particulièrement touchées par ce conflit. Ça a fait une grande différence si tu vivais en tant que femme dans un de ces villages ou en tant qu'homme. Est-ce que tu peux nous parler de la situation des femmes dans ces conflits, dans cette guerre?
Oui, les femmes, elles ont durement vécu le conflit. Tout ce qui était culture vivrière et assurer à la limite la vie à la famille, c'était vraiment aux mains des femmes au niveau de la basse Casamance. C'est elles qui font la culture du riz, c'est elles qui vont chercher le bois dans la forêt. C'est elles qui donc, font évidemment la cuisine et aussi entrent dans la forêt pour cueillir des fruits, pour chercher vraiment de quoi nourrir la famille, prendre des feuilles et autres, etc. Ça, c'était les femmes. Or, quand vous entrez dans la forêt, déjà, vous êtes vous êtes soupçonné. Et ensuite, les hommes ont été obligés de quitter souvent les maisons parce que soit ils ont été dénoncés par les uns ou par les autres pour une raison ou pour une autre, pas même forcément parce qu'ils appartiennent au groupe. Ils ont été donc ils ont quitté les maisons et laissant les femmes seules avec les enfants et les vieillards. Et c'était donc une grande vulnérabilité pour ces femmes qui pouvaient faire l'objet d'abus divers des hommes en armes, de manière globale. Voilà. Elles pouvaient faire vraiment l'objet, en tout cas, d'attaques, de violences et certainement même de viols. Bon, c'est des sujets que les femmes n'abordent pas, mais ce sont des choses qui se sont passées, quoi. Donc, les conséquences des conflits ont été particulièrement dures pour les femmes, tu vois, parce que, comme je l'ai dit au départ, il y avait ces femmes qui avaient les calebasses, qui sont surtout ce qu'on appelle des prêtresses ici, des bois sacrés, on les appelle les femmes des bois sacrés. Et donc, elles ont été recherchées parce qu'on a estimé que c'est elles qui ont encouragé les jeunes à prendre les armes. Donc, elles ont été recherchées, elles ont été arrêtées et certaines ont été torturées. Donc, ça, c'est un premier problème pour les femmes. Le deuxième problème, c'est que le départ des hommes les a rendues vulnérables.
Vielleicht kannst du zu den Frauen der Heiligen Wälder noch ein, zwei Sätze.
Vous nous avez dit que les prêtresses des forêts sacrées ont joué un rôle particulier au premier mouvement d'indépendance, mais aussi actuellement dans les mouvements de paix dans la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces femmes, qui sont-elles et comment leur rôle a évolué aussi au cours du temps de ces phases du début, mais aussi maintenant dans les mouvements de paix de la région.
Dans les sociétés de Basse-Casamance, il n'y avait pas cette place donc qu'on accorde aux femmes, cette place inférieure qu'on accorde aux femmes qui doivent être dominées par les hommes. C'était juste la valeur intrinsèque de l'individu qui lui donnait une place. Et c'est ainsi, par exemple, que dans les religions traditionnelles, les femmes, comme les hommes, pouvaient être chefs des bois sacrés, c'est-à-dire les lieux où l'on fait le culte traditionnel. Et donc, dans les décisions de guerre, les femmes, comme les hommes, devaient aider, par leur jonction avec les dieux, elles devaient aider à éclairer l'avenir, à savoir si cette guerre, si on y va, est-ce qu'on sera gagnant ou pas, etc. Et autres, ou bien est-ce qu'on peut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ce sont ces femmes qui ont effectivement, à la limite, donné l'onction aux jeunes pour dire que, voilà, vous pouvez y aller. Et c'est dans les bois sacrés tenus par les femmes que c'est beaucoup de ces combattants de départ qui croyaient en cette religion traditionnelle ont eu à verser du vin pour faire des ferments. Comme quoi, ils ne trahiront pas le mouvement, ils continueront jusqu'au bout, ils iront jusqu'à l'indépendance. Donc ça, ils l'ont fait dans ces bois sacrés, donc qu'on dit tenus donc par des femmes.
Du hast schon gesagt, dass diese 80er Jahre sehr geprägt waren von Angst und Misstrauen und Schweigen.
On a beaucoup parlé du contexte de ces conflits, d'une phase qui était surtout dominée par des sentiments de peur ou des sentiments de méconfiance, des sentiments de peur aussi d'être accusé ou dénoncé. On aimerait bien parler maintenant de votre travail concrètement. Vous avez créé une grande réunion avec des organisations de femmes. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de cette grande réunion d'alliance?
Quand nous avons vu ce conflit vraiment se propager, prendre de l'ampleur, et que nous nous rappelons avoir vu qu'avec la seule mort d'un élève, les femmes étaient sorties, qu'elles avaient mené donc vraiment des tournées dans toute la ville de Ziguinchor, etc., et autres, des grands rassemblements, et qu'elles étaient elles-mêmes allées voir le gouverneur de la région pour porter la revendication donc, des élèves, pour mettre fin à la grève donc, des élèves de 1980. Ce sont les femmes qui ont mis fin. Alors, on s'est dit, pourquoi toutes ces femmes-là, avec la mort d'un élève, se sont donc impliquées? Maintenant, il y a des centaines, voire des milliers de morts, et on ne les voit plus se mobiliser. Donc, pour nous, c'était important. On a mis en place un groupe de réflexion formé de quelques membres donc, de ces femmes de la gauche engagées et de quelques hommes. Et c'est ce groupe de réflexion qui a orienté vers une grande rencontre de toutes les femmes en ne négligeant aucune partie. Les femmes catholiques, les femmes qui sont musulmanes, qui sont dans ce qu'on appelle des daïras, ce sont des associations de femmes musulmanes, et il y a les associations de femmes catholiques, il y a les femmes des bois sacrés, et il y a les femmes des associations économiques. Donc, qu'il faut aller voir toutes ces femmes, parler de l'intention. Ça a pris beaucoup de temps, parce que les conclusions du groupe de réflexion, c'était en 1998, et c'est seulement en novembre 1999 qu'on a tenu cette grande rencontre de toutes ces organisations de femmes, non seulement de la région de Ziguinchor, mais aussi de la région de Kolda et de la région de Seyou, c'est-à-dire la Casamance naturelle.
Infolge dieses Treffens wurde USO-FORAL auch gegründet, also Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance.
À la suite de cette réunion, il y a une union qui s'est créée, l'USO-FORAL, donc le Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance. Et cette union, c'est l'union des organisations dont vous nous avez parlé, avec tous ces groupes différents de femmes qui se rejoignent. Et dans ce groupe, vous poursuivez jusqu'à aujourd'hui encore des stratégies qui ont été déjà établies, je pense, dans cette grande réunion d'alliance qui a donné naissance à l'USO-FORAL. Et cette union, comme elle fait se rejoindre un groupe de femmes très, très diverses, pouvez-vous nous parler de la diversité de ces femmes et comment ça peut être aussi un atout pour le mouvement et comment vous réussissez à travailler avec autant de diversité?
Oui, on dit souvent en français qui trop embrasse mal étreint. Donc, il y avait beaucoup de diversité et on a pu, en laissant une certaine autonomie à la limite, particulièrement au groupe des femmes des fétiches, en leur laissant une certaine autonomie dans les décisions et autres, on est arrivé effectivement à travailler ensemble pendant beaucoup d'années et à faire des activités, parce qu'on tenait compte de la spécificité. Mais à partir effectivement de 2003-2004, il y a eu effectivement une scission et il y a eu la constitution d'une autre organisation qui s'appelle Kabonketor, avec les femmes des bois sacrés. Mais depuis 2020, je pense, ou même avant 2020, il y a eu une autre scission et les femmes des bois sacrés sont parties toutes seules et les femmes de Kabonketor sont parties aussi avec leur organisation.
Das andere, was ja auch schon bei diesem ersten Bündnistreffen passiert,
lors de cette première réunion d'alliance, qui était un point très important aussi de la réunion, c'était que les femmes ont pu échanger leurs histoires personnelles, ont pu raconter ce qu'elles ont vécu durant le conflit. Et si j'ai bien compris la chose, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une partie très importante de votre travail, que les personnes, les femmes puissent témoigner de leurs expériences et puissent raconter leurs histoires. Pouvez-vous nous en parler?
Pour nous, si les femmes, justement, de ces bois et toutes les femmes ne s'étaient pas soulevées avant, c'est aussi peut-être parce qu'elles n'étaient pas très bien informées de toutes les souffrances, de toutes les horreurs qu'il y avait dans cette guerre. C'est pour ça que pour nous, il était important que les femmes puissent raconter qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et il y a vraiment des femmes qui ont parlé de leur mari égorgé devant leurs yeux et devant les yeux de leurs enfants, etc. et autres. Et d'autres ont été complètement horrifiées qu'elles ne savaient pas que de telles choses s'étaient passées, etc. Donc pour nous, c'était un des enjeux. Et parce que pour nous, si les femmes ne s'étaient pas levées, c'est parce qu'elles n'étaient pas bien informées de l'ampleur de cette situation, de l'horreur qui se faisait au niveau des différents villages. Donc, c'était l'un des buts. Et là, nous pensons avoir vraiment atteint ce but, que les femmes ont été bien informées et qu'elles ont alors décidé qu'elles devaient faire quelque chose. Nous pensons avoir vraiment joué un rôle dans les changements de comportement des femmes de manière globale et des femmes des bois sacrés de manière particulière. Ça, c'est ce que nous pensons. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous continuons à faire, c'est 2 à 3 choses, si on veut. L'une des choses, c'est que pour nous, les femmes doivent comprendre quelle est la situation donc, du conflit, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'elles puissent décider de ce qu'elles peuvent faire. Pour nous, ça, c'est important. Deuxièmement, que les femmes profitent aussi de l'accalmie, des discussions pour la paix, pour que leur principale revendication soit examinée. Et enfin, pour nous, il était important de travailler à ce que des femmes leaders émergent et s'impliquent dans tout ce qui se fait dans leur communauté, au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau social. Donc, nous continuons à accompagner la paix, la construction de la paix, mais nous estimons que cette construction de la paix aussi passe par une implication consciente et résolue de femmes leaders et de tout ce qui se décide dans leur communauté, dans leur vie, pour elles, pour leur communauté, pour leur famille.
Genau, du hast jetzt eigentlich ja von verschiedenen Strategien gesprochen, wie Frauen sich selbst ermächtigen können.
Donc, tu nous as parlé des différentes stratégies que vous poursuivez pour autonomiser les femmes et les rendre plus fortes et rendre leur rôle dans la société plus forte. Et je sais que vous avez aussi la stratégie de vous inspirer de rôles traditionnels que les femmes avaient, de rôles dans lesquels elles étaient très fortes, avaient beaucoup de valeur pour la société, et que vous prenez ces rôles traditionnels comme inspiration pour un rôle qu'elles pourraient avoir aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Quels sont ces rôles et comment vous essayez de les mettre en pratique et qu'est-ce que ça signifie pour la société d'aujourd'hui?
Au niveau traditionnel, il y avait des rôles qu'on peut estimer vraiment des rôles très positifs de la femme au niveau de la basse Casamance. Parmi ces rôles, il y a le rôle de médiateur. C'est-à-dire bien avant même la résolution 1325 des Nations Unies, au niveau de la basse Casamance, comme je le disais tout à l'heure, la femme étant considérée comme sacrée, même la femme de l'ennemi ne devait être touchée. Donc, quand 2 villages combattaient, les femmes d'un des villages pouvaient se mettre au milieu et arrêter donc le combat. Parce qu'on ne devait pas blesser la femme, fût-elle la femme de l'ennemi. Donc ça, c'était vraiment, à notre avis, cette sacralité de la femme est une chose extrêmement importante et nous avons essayé de travailler sur certains de ces aspects-là en faisant une recherche et en regardant un peu tous ces aspects positifs. Nous avons essayé de les faire revivre par le théâtre, par des rencontres qu'on a appelées des universités populaires, avec donc des échanges avec un grand nombre. Une université populaire, ça peut recueillir 200 personnes, 150 personnes, au moins une centaine de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, etc. Et après donc une séance de théâtre, il y a une discussion qui est menée sur le sujet introduit par le théâtre.
Ganz am Anfang hast du ja gesagt, dass es um die Gründe des Konflikts geht, ging das Armut.
Tout au début, quand on a parlé du contexte du conflit, vous nous disiez que la pauvreté jouait un grand rôle pour ce conflit et pour l'émergence de ce conflit. Et un de vos buts, c'est aussi de rendre les femmes plus fortes et leur rôle plus fort dans l'économie. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important de rendre les femmes plus fortes au niveau économique pour ce mouvement de paix?
Nous pensons. C'est des femmes qui sont informées. Elles savent ce qui se passe, elles sont formées et elles ont une certaine autonomie dans leur vie. Elles prennent donc les bonnes décisions et elles s'impliquent en toute connaissance de cause. C'est ça, dans une société pour nous, elles peuvent effectivement jouer un grand rôle et rendre la société plus équitable et la paix sera encore plus grande et plus durable pour nous. C'est comme ça que vraiment c'est notre conception de la paix. Si les femmes demeurent dans des positions d'infériorité, peut-être chaque jour pour même avoir de quoi manger ou pour résoudre le plus petit besoin dépendant des hommes, pour nous, on n'arrivera peut-être pas à une réelle paix.
Wir haben jetzt viel über das gesprochen, was ihr sozusagen nach innen tut, um die Frauen zu mobilisieren. Von Anfang an war aber auch ein wichtiger Teil.
Pour vous, c'était très important dès le départ que les femmes prennent part aux négociations qu'il y a eu avec le gouvernement sénégalais et qu'elles fassent du travail politique, qu'elles participent au travail politique que vous faisiez dans les négociations avec le gouvernement sénégalais. Et il y a eu une première rencontre en Gambie à Banjul. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre?
Exactement. Nous, depuis le départ, effectivement, nous pensons qu'il y a un problème politique et qu'il ne faut pas laisser les hommes régler seul ce problème politique. Parce que si on regarde de près, par exemple, les femmes, elles ne sont pas combattantes, en tout cas à notre connaissance. Il y en a très peu où on ne sait pas. Vraiment, on pense qu'il n'y a pas de femmes directement combattantes avec des armes. Donc, si on doit laisser les hommes seulement parler lors de négociations, ils ne vont poser que des problèmes donc, qui les concernent. Parce qu'on parle des hommes qui sont en armes, il faut donc désarmer, etc. et autres, démobiliser. Qui est-ce qu'on démobilise? C'est les hommes en armes. Et s'il n'y a pas de femmes, elles ne seraient pas concernées. Or, nous pensons que c'est peut-être une circonstance malheureuse, la guerre, mais que les femmes doivent en profiter pour gagner donc, dans la lutte pour leurs droits, sur le plan économique, politique, etc. et autres. C'est pour ça que nous, dès le départ, on a pensé qu'il était important que les femmes soient là où on discute, là où on débat, là où on va décider.
2022,
maintenant en 2022, il y a eu le dernier traité de paix qui a été écrit et il a été écrit sans les organisations de femmes. Pouvez-vous nous dire en quoi c'est visible dans le contenu de ce traité de paix et à quel point ça a impacté sur la manière dont ce traité de paix a été formulé?
J'ai regardé, en tout cas, le document. Pour moi, ce n'est pas un traité de paix. Cela ne semble pas être un traité de paix, sinon des préalables pour aller aux négociations. C'est le titre, mais on ne voit pas véritablement là où on dit accord qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Ce qui s'est passé à Dakar, c'est une autre organisation qu'on appelle le OFPAC, qui est une sorte de rassemblement des organisations de la société civile, dont même nous, on fait partie, en tant qu'Osoforal. On fait partie, tout le monde fait partie théoriquement de cela. en tant qu'organisation, travaillant dans cette zone, même avec les femmes dans cette zone, nous avions envoyé une délégation. Mais c'est juste des armes qui ont été rendues, recueillies. Il n'y a pas eu des accords, des contreparties, en tout cas officielles, visibles. Même, je pense, même les combattants, je ne sais pas exactement moi personnellement qu'est-ce qui leur est donné en retour. Mais les femmes, elles, c'est sûr, elles ne sont pas du tout prises en charge dans cette affaire. Pas du tout.
Um noch eine weitere Hürde vielleicht anzusprechen. Der Krieg hat ja auch in den letzten Jahren wie so eine eigene...
Durant les dernières années, on a pu remarquer que le conflit a développé une sorte de dynamique propre, que le conflit a sa propre économie, l'économie de la guerre, et il y a pas mal de ressources qui ont été découvertes dans la terre, le trésor dans la terre et comment ces ressources jouent un rôle dans ce conflit et cette économie de guerre joue un rôle dans la difficulté à trouver la paix.
Un certain nombre de richesses donc minières ont été découvertes. Certaines, c'était tout juste au début du conflit, comme le pétrole. Parce qu'il y a du pétrole offshore entre, par exemple, le Sénégal et la Guinée-Bissau, dans une plateforme. Donc, c'est cela peut-être qui a compliqué les choses avec l'engagement, donc aussi, de la Guinée-Bissau, en tout cas, à certains moments, auprès de certaines parties du mouvement indépendantiste. Donc, ça, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a d'autres richesses qui ont été découvertes, par exemple, dans la zone de Bindiona, Kafountine, etc., et qui sont le zircon, voilà. Il y a ce qu'on appelle le zircon. Et il y a beaucoup de, en tout cas, de tiraillements entre des sociétés hollandaises, chinoises, etc., qui sont en train de se tirailler et... Selon les uns et les autres, cela occasionne au niveau de la population aussi des prises à partie pour, contre l'exploitation, comment, etc. À mon avis, toutes les guerres où il n'y a pas de ressources naturelles stratégiques, ces guerres-là, ça finit vite.
Der Krieg ist ja auf eine Art auch ein Produkt der Kolonialzeit, also seit den...
Ce conflit, il a lieu dans un contexte qui est quand même imprégné du passé colonial du pays. La Casamance, il y avait des discussions pour que ça devienne un État indépendant quand le Sénégal a trouvé son indépendance. Est-ce que vous voyez des continuités coloniales aussi dans ce conflit ou en quoi le colonialisme a eu des répercussions sur ce conflit?
Au niveau du découpage même de l'Afrique, et particulièrement de ce qu'on appelle la Sénégambie méridionale, c'est-à-dire Sénégal, Guinée-Bissau et Gambie, on voit bien l'empreinte donc, de cette colonisation, parce que c'est des bouts de territoire que se sont appropriés certains pays. La Gambie, donc c'est le Royaume-Uni, le Sénégal, donc de manière globale, c'est la France. Au sud du Sénégal, la Casamance était d'abord dans beaucoup d'enceintes portugaises, avant qu'il y ait des accords entre ces deux puissances, pour que ici, ils cèdent ces enclaves portugaises-là qui les cèdent à la France et que la France, sur d'autres îles au niveau du Pacifique ou je ne sais plus où, leur cède aussi autre chose. Donc, c'est vraiment présent l'empreinte du colonialisme et ces colonialistes, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, continuent chacun de manœuvrer son ex-colonie. quand son intérêt est en jeu. Parce que si il y a du pétrole, le Portugal au niveau de la Guinée-Bissau, il est évident que c'est peut-être le Portugal qui va le plus en bénéficier. S'il y en a, s'il y a quelque chose au large de la Gambie, c'est sûr que donc, l'Angleterre va aussi aussitôt se repositionner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a héritées de la colonisation qui continuent à nous poursuivre. Et cette division au sein de peuples qui sont les mêmes, effectivement, on les a hérités de la colonisation. Donc, les intérêts coloniaux, ce néocolonialisme, continuent par la mainmise qu'on a sur nos différents États, sur les chefs de nos différents États, et donc sur les ressources que nous avons, le désir de mainmise.
Pour aller dans le sens d'une pratique décoloniale, qu'est-ce que des personnes comme moi en Europe peuvent faire pour se solidariser avec votre mouvement?
Nous, notre intérêt, c'est véritablement que les organisations, mouvements donc de femmes au niveau des pays occidentaux fassent, comment dire, pas face du bruit, comme disait le président déchu du Gabon, mais que ces organisations puissent relayer notre lutte, relayer leur positionnement, les difficultés que nous vivons et vers quoi nous voulons aller, c'est-à-dire donc nos projections, en dehors évidemment du fait aussi de mobiliser des fonds pour aussi une meilleure formalisation et un plus grand renforcement des organisations de femmes. En tout cas, ici, au Sénégal, les organisations des hommes drainent plus de moyens et donc ont une plus grande visibilité, ont plus de possibilités, par exemple, du point de vue de la communication et autres, que les organisations de femmes. Donc, pour moi, voilà, vraiment, je pense que c'est cela. C'est d'abord vraiment relayer ce que nous faisons, relayer peut-être ce que nous voulons et soutenir aussi la mobilisation de fonds, la levée de fonds de ces organisations. Pas seulement des levées de fonds pour des activités, mais des levées de fonds qui permettent un renforcement institutionnel des organisations.
Notre podcast s'appelle Peace Sounds. Du coup, il nous est important de poser la question de comment on dit paix dans votre langue maternelle ou dans les différentes langues qui sont parlées en Casamance.
Donc, serer, c'est jam. Ça, c'est ma mère qui est serer. Et en Wolof, on dit jam. Vous voyez un peu, c'est juste une question de... Voilà. En Diola, on dit Kasumai. Et en Mandeng, on dit Kaira.
Si il y avait vraiment une paix durable en Casamance et si la société arrivait à vivre dans un environnement de paix, comment le monde autour de toi, quel serait le son du monde autour de toi?
Ce serait le... Je ne veux pas dire le silence, mais ce serait le chant des oiseaux. Des oiseaux qui gazouillent un peu partout, voilà, et la vie qui reprend dans cette verte Casamance.
Nous remercions chaleureusement Nabou Malé Cissé de nous avoir donné un aperçu de sa vie d'activiste et de son engagement pour l'autonomisation des femmes dans le processus de paix en Casamance, au Sénégal. Merci également à Pauline Menghini qui a assuré l'interprétation de l'interview. Vous trouverez de plus amples informations sur cet épisode dans les show notes. Le prochain épisode sera réalisé par la radio partenaire de la Vue Stévelet, Stereovia au Pérou. Il portera sur les crimes de l'organisation terroriste Sentier Lumineux et leur traitement critique, ainsi que sur le rôle de la justice sociale pour la paix au Pérou. Nous serions heureux si tu pouvais partager, liker, commenter et conseiller ce podcast à d'autres personnes. Tu peux aussi nous envoyer tes réflexions sur la série à buero@vuest-velay.de.
Peace Sounds ist ein Projekt des Freien Radios Wüste Welle, des Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und Fair Strict. Netzwerk für Fäden, Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.
Es wird gefördert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg.